Bonjour pour la bulle de DNS, Monsieur Vanda Scartedini, membre du conseil de l'ICANN.
Comité de liaison.
Membre du comité de liaison de l'ICANN. En tu cosa la junta.
Estoy buscando porque algo de liaison tenemos, pero no lo encuentro. El comité no. Pero junta tampoco. Organización de soutien.
Bonjour à tous. Merci de participer de cette séance. Ce que nous avons préparé pour aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir dans cette session, nous allons traiter des questions qui se présentent quotidiennement dans notre vie et qui sont la cause de beaucoup de problèmes pour l'industrie et pour les utilisateurs. Nous allons donc débattre dans une certaine mesure et quels sont les pays qui font face à certains problèmes techniques. Nous allons aussi avoir de petites sessions avec des orateurs, trois orateurs pour chaque session. Et nous allons donc commencer avec les défis ou les enjeux auxquels fait face la Colombie. Plus tard, on va faire une analyse sur les cas de hameçonnage au Brésil et l'abus de la DNS. Et plus tard, il y aura une session plus technique concernant la réputation de la DNS. Voilà donc la première partie de notre session. Plus tard, il y aura une session ouverte avec des questions-réponses. Nous aimerions bien recevoir vos questions. Nous aurons aussi la participation à distance. Je demande à tous les membres de la participation à distance d'offrir cette fonctionnalité pour recevoir ces questions. Hein? Pour commencer donc, nous aurons la présence de M. Jeff, qui est un chercheur des délits du département des recherches pénales ou criminelles de l'Interpol de la Colombie, qui va partager avec nous certains enjeux ou certains défis auxquels la Colombie doit faire face à ce jour. Monsieur Jeff Rees, nous vous cédons la parole. Merci beaucoup. Très rapidement, nous allons voir les enjeux auxquels la Colombie doit faire face, mais vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas différents de ce que l'on voit au niveau mondial. L'ICANN, comme organisation, donc, doit travailler là-dessus. Et dans ce cas, on demande que la Colombie, du fait d'être le pays hôte, puisse dire quels sont les problèmes auxquels il fait face, quelles sont les forces vis-à-vis de la recherche en ce moment. Nous allons voir quels sont les défis. La police de la Colombie qui fait la recherche sur les délits informatiques, nous avons une échelle de 10 problèmes les plus importants. Dans ce cas, il y a les 10 tendances que l'on peut voir en Colombie. Vous allez vous rendre compte que nous travaillons sur 10 problèmes et plus de 5 sont en rapport avec l'abus, avec le hameçonnage, avec le changement d'identité sur le web. Tout d'abord, les vols par transférence électronique, le hameçonnage, farming, spoofing. Je sais que c'est des terminologies qui sont très connues et récurrentes. Donc, nous travaillons sur les offres d'argent facile, des offres de travail dans le pays et au niveau international, qui sont sur l'Internet avec l'utilisation de noms de domaine d'entreprises prestataires qui ne font aucune recherche sur l'Internet, mais qui sont victimes de ce phishing. Il y a des messages courts, des messages de texte courts envoyés à travers les téléphoniques, les compagnies de téléphonie et les lignes de téléphone mobile où les grandes entreprises donnent des prix ou de l'argent comptant. Et aussi, on fait le hameçonnage des grandes entreprises, des grandes corporations de téléphonie, des grands marchés, etc. Ceci se passe fréquemment. Le courrier électronique pour ce qui est de l'identité de l'envoyeur, au niveau corporatif, au niveau personnel, au niveau gratuit, de toutes les manières possibles. Et voici l'une des approches, les ventes de bases de données. Bogota cherche des bases de données, des comptes de courrier corporatifs. Il est possible d'avoir accès par les chaînes de courrier, de spammers. Il y a des Colombiens consacrés à recueillir toutes les informations des noms de domaine et des comptes de courrier et ils font la saisie sur les bases de données. Donc, il est simple de prendre un nom de domaine et de le remplacer. Le espionnage a lieu au niveau industriel. Ceci échappe à la ligne de l'abus ou du remplacement de domaine. Il y a des pages colombiennes d'infrastructures critiques du gouvernement, d'éducation, qui ont été vulnérées et que dans leur domaine, .co et dans les serveurs, il y a des lignes de hameçonnage qui permettent que les délinquants colombiens fassent ce travail. Hacking, sabotage, normalement, ceci se passe avec les pages. Les pages de l'État, et alors là, les coordinations jouent un rôle important parce que elles sont très atteintes. Le contenu est en rapport avec les DNS, avec les réseaux sociaux et avec les courriers électroniques. Le cyberbullying que nous connaissons bien, qui donne une mauvaise réputation aux personnes, mais qui ne se fait pas de manière physique comme dans les écoles, mais on le fait de manière virtuelle. Normalement, 24 heures sur 24, des injuries, des calomnies, etc. Et puis, nous parlons de prédateurs sexuels qui parlent l'anonymat, qui utilisent l'anonymat en se faisant passer par des personnes plus jeunes pour trouver des rapports sexuels avec des mineurs. Et voilà ce avec sur lequel on travaille à la police nationale. Et il y a 6 ou 8 qui sont en rapport avec cet abus d'Internet et avec le hameçonnage vis-à-vis du domaine. Les organisations criminelles que nous avons identifiées en Colombie, il est possible d'observer qu'il s'agit d'organisations qui ont les rôles définis. Ce sont des personnes chargées qui ont une tâche à leur charge. Ils savent travailler. C'est très difficile d'arriver aux leaders des organisations, à ceux qui nous attaquent du fait de l'anonymat de l'Internet lorsqu'ils l'utilisent comme plateforme. Et nous, comme chercheurs, nous devons commencer à voir quel est le maillon le plus faible de la chaîne et ce sont ceux qui reçoivent cet argent comme transfert. Et il faut partir de la partie la plus difficile. Bien des fois, c'est-à-dire, c'est difficile d'arriver aux leaders des organisations. Le problème est, comme police, voilà, ceci c'est un problème. Hein, maintenant, vis-à-vis du citoyen commun, il faut penser à des connexions plus rapides, aux protocoles plus simples. Et pour nous, c'est un problème parce que ceci provoque la disponibilité Internet avec des connexions vraiment vastes et très puissantes, ce qui permet de réaliser des attaques permanentes. Le deuxième problème, c'est le stockage. La personne identifie 3 composants essentiels pour acheter la technologie. Un plus grand process, plus de vitesse et plus de capacité. une personne avec un ordinateur de 500 gigas va affecter ce stockage. Pour nous, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que en tant que police nationale, lorsque nous prenons ces éléments et nous devons les analyser, il faut faire une copie exacte. On ne peut pas travailler simplement sur l'original. Donc, on a besoin de beaucoup de stockage pour faire ces copies et ceci se transforme en un problème. Mais pour l'utilisateur final, ce n'est pas la même chose. Il faut penser aussi au prix pour accéder aux nouvelles technologies. En Colombie, en 2007, il y a des personnes qui veulent acheter des ordinateurs de moins de 1 700 000 pesos colombiens. Ceci ne paie pas des impôts, donc ceci est bien pour l'utilisateur final, mais pas pour nous, parce qu'il y a des personnes qui, avec un bon ordinateur et une connexion Internet, ont la possibilité de devenir des délinquants potentiels. Les personnes qui utilisent l'Internet comme moyen d'information, mais qui se trouvent avec d'autres contenus et qui deviennent des attaquants potentiels. Deuxième problème, ou l'un de, parmi beaucoup de problèmes, 980 millions d'actifs dans des réseaux peak-to-peak. L'Internet n'a pas de centre, ça on le sait, nous le savons, donc c'est difficile de faire le suivi judiciaire pour des tendances délictives qui sont des délits en Colombie, mais pas dans d'autres pays. Vous savez bien que tous les problèmes à propos de ces expériences. Il y a des réseaux que l'on a détectés. Ce sont des réseaux qui offrent un service d'échange de fichiers, mais qui sont utilisés pour trouver des équipements vulnérables et les transformer en équipes zombies. Il y en a beaucoup qui sont engagés en Colombie. Des attaques DNS, eh bien, on en a. La page de la registration nationale, celle qui a organisé la votation pour la présidence le jour des élections, a été attaquée. Hein. Donc, la Colombie souffre toujours ce type d'attaque. Et notre page que nous utilisons pour le phishing, pour le hameçonnage, on doit... ce sont des pages .gov.co qui sont susceptibles d'être attaquées par les délinquants. Il pourrait y avoir plus d'exemples sur ce que nous travaillons comme police nationale pour ce genre de recherche. Phishing, spoofing, ce sont des exemples simples. Il y a beaucoup de pages disponibles pour faire du spoofing. Le compte de courrier Cartagena 2010. Ce compte n'existe pas. Ça, je l'ai inventé pour faire le spoofing, pour faire la supplantation. Je l'ai auto-envoyé dans mon courrier corporatif avec un lien qui allait m'envoyer autre part et avec une photo pouvant contenir des codes malveillants. Là, on ne peut pas lutter. Si une personne essaie d'identifier si effectivement il s'agit d'une supplantation ou de quelque chose de réel, il faudrait voir l'entête complète. Et nous ne le faisons pas pour une question culturelle et nous ne revoyons pas les entêtes pour déterminer ce qui est réel, ce qui est de la supplantation. Il y a l'environnement géographique du compte, ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de malicieux. Il est très probable que la tâche puisse contenir des codes malveillants. Voici notre lutte. C'est une guerre à n'en plus finir. Il y a des délinquants informatiques qui veulent prendre l'information. Si l'on observe, si vous observez cette photographie, si vous recevez ce courrier électronique, vous dit que si en ce moment vous ne renvoyez pas ce courrier, les 15 principaux contacts, vous aurez problème avec vos 15 premiers contacts. Eh bien, moi, je le fais, hein. Mais ça, c'est ce que le délinquant informatique font pour obtenir l'information, parce que l'information montrée est suggestive et nous ouvrons normalement ce genre de courrier. Quelles sont les forces de la police nationale vis-à-vis de ces recherches? Il y a un an et demi, presque deux, qu'il y a une loi en vigueur, la loi du délit informatique jusqu'il y a 2 ans. On n'avait qu'un article au code pénal nous permettant de faire des recherches ou de pénaliser ce genre de délit. Mais et nous avons des caractéristiques pénales, accès au système informatique, accès abusif à un système informatique. Vous avez une idée de ce que ça peut parler, obstaculisation illégitime du système informatique, réseau de télécommunications, interceptation de données informatiques. Pour que la barrière technologique ou le fossé technologique nous dise non, ceci c'est obsolète. Donc, on a organisé quelque chose de très vaste, des dommages informatiques, utilisation du logiciel malveillant, utilisation des données nationales, supplantation du site web pour capturer des données personnelles. Il y a des circonstances d'aggravation lorsque la supplantation est faite sur l'infrastructure critique. Et voilà donc des aggravants pour ce genre de délit. Et aussi le vol informatique et le transfert non accepté d'actifs. Voilà les deux derniers. Nous avons 10 types pénaux différents et on prévoit 4 ans de prison pour la personne qui fait ces délits. Donc, c'est une force que nous avons en ce moment. Il y a 2 ans, on ne l'avait pas. Ceci est entré en vigueur le 5 janvier 2009. Et de la même manière, en recherche, nous avons des articles du Code pénal qui permettent de travailler sur l'Internet ou d'autres moyens technologiques qui puissent introduire des effets équivalents, c'est-à-dire que tous les dispositifs électroniques, on peut faire l'analyse et aussi ce que l'on puisse analyser vis-à-vis de du transfert de fichiers sur Internet. Nous appellerons au point co pour leur déterminer leur collaboration, l'équipe internationale. Nous avons trouvé des sites hébergés n'importe où dans le monde. Nous avons un autre article qui va me permettre d'avoir des courriers électroniques, des téléx, téléfax, etc., comme un élément matériel de preuve. Bien que ce ne soit pas tangible, bien que ce soit intangible, on peut le compter comme élément de preuve. Une page web qui nous sert de plateforme avec un courrier électronique, avec de l'information, avec un chat interactif pour que les citoyens et les entreprises, les entités financières, dès qu'elles seront victimes des attaques, puissent nous informer. Et nous pouvons donner réponse plus rapide.
Des défis? Bon, pour l'année 2011 et 2012, la couverture de recherche technologique, que ce soit à niveau pays, les 44 villes principales du pays avec des groupes de recherche technologique, 8 laboratoires d'informatique criminelle à niveau régional. Nous avons 5 déjà dans les villes principales, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga et Bogota. Et à niveau centralisé, il y a le laboratoire de la direction de recherche d'investigation criminelle. Et dans ce niveau, nous travaillons à côté du groupe latino-américain de crimes technologiques. Technologique, nous avons une plateforme pour que ce soit finalement une plateforme en ligne pour présentation des plainte, que ceci soit présenté en ligne et pour répondre à l'immédiat. Hein. Depuis 2011, on commence à travailler au centre de réponse à des incidents cybernétiques. Hein. Et c'est là qui sépare la direction cybernétique de la police. Hein. Il y a quelque chose pour tout ce type de délit et il y a une plateforme pour la pornographie infantile pour 2011-2012 prévue. Hein. De violence digitale. Bon, il n'y a pas d'inconvénient avec l'évidence physique. Nous travaillons très fortement pour que le traitement de cette évidence passe à la partie numérique. Et Network Forense et Cloud Compute, hein, ce sont les sociétés qui. C'est là qu'il faut s'occuper hein, et c'est à niveau national. Que les choses physiques, à un moment donné, si c'est intangible, on puisse également y arriver hein, pour pouvoir traiter cette évidence numérique. Vous avez ici, nous allons vous laisser cette présentation et vous avez là les éléments pour nous contacter. Merci, Schaeffer. Nous allons continuer maintenant avec la présentation de Christine Haupers, de Computer Emergency Response Team du Brésil. Christine. Elle va parler des cas de abus d'hameçonnage. Merci Vanda. Je vais parler sur les cas de hameçonnage que nous avons connus cette année au Brésil. Notre organisation est une organisation nationale à niveau du pays qui s'occupe des réseaux brésiliens. Les données que nous vous présentons arrivent de plaintes reçues sur des cas de hameçonnage au Brésil ou à l'étranger, hein, mais qui touchent des institutions brésiliennes ou des banques, par exemple. Cette année, nous avons reçu un total de 7 000 plaintes ou dénonciations, hein, pas seulement d'emails, mais aussi d'autres types d'attaques différentes. Qui sont les autres sites de phishing. Aloha, pero es me sale otro, pero alojar no me sale el verbo. Je parle de être le hôte de pages web fausses, hein, des contenus. La plupart des attaques s'adressent aux marques brésiliennes. Mais nous avons reçu 2 000 plaintes de marques internationales qui ont de cas de phishing avec base au Brésil. Nous voyons qu'il n'y a pas de lien entre les adresses IP et les CCTLD. Les cas sont distribués dans tout le monde. Nous avons plus de 68 pays, hein, qui donne place à ce contenu. Donc, les données d'allocation IP proviennent de registres internationaux et nous devons voir à quel pays, hein, ceci se rapporte. Nous avons un total de 92 CCTLD. Il y a donc beaucoup de domaines qui se trouve comme IPS dans le pays où se trouve le CCTLD. C'est pourquoi l'abus de CCTLD n'est pas totalement lié au lieu où ce contenu est basé d'après l'adresse IP. Nous avons 10 GTLD, hein, cette année qui ont été objets de hameçonnage cette année. Nous avons eu une grande quantité également de cas de hameçonnage basés sur des adresses IP sans nom de domaine. L'un des questions liées à l'allocation d'IP, bon, l'agenda du monde s'occupe des pages basées au Brésil, dont la plupart de gens qui se plaignent de ce type de site, hein, c'est 35% du total. Mais la plupart des cas, hein, se trouvent aux États-Unis. Si vous regardez à droite, vous verrez que les systèmes autonomes correspondent à des sociétés, des entreprises. Hein, nous ne payons. Et ce sont des sites web qui sont logés, hein, dans des grands centres de données. Nous croyons qu'il y a beaucoup de centres de données aux États-Unis et au Brésil et dans d'autres pays qui ne sont pas en réalité la grande majorité, hein. Tout est très répandu. Il y a des applications web vulnérables qui vraiment signifient des problèmes pour les données. Et en ce qui concerne les données d'abus de DNS, nous voyons que les sites qui héberge une intention de faire du l'hameçonnage. Bon, là, c'est la plupart de .com, mais si nous considérons quelle quantité de ces 2000 domaines ont été créés pour le hameçonnage, comme par exemple le nom d'une banque ou d'une marque, ce n'est pas la grande majorité, hein, que nous voyons. Mais dans la plupart des cas, ce sont des domaines qui hébergent du contenu qui vont contre des sites web qui ont des sous-domaines ou qui se trouvent sur une page web centrale. C'est ça ce que nous voyons surtout. Nous voyons également que le domaine .com, .info, .org ont subi les mêmes attaques. Ce n'est pas un chiffre énorme, mais un problème, c'est comment contacter les registraires ou les revendeurs pour leur expliquer que c'est un domaine qu'on emploie pour hameçonnage. Ce que nous voyons, donc, que ces domaines durent quelques semaines et après, ils changent l'adresse IP. Parce que la plupart de fois, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, hein, c'est qu'ils ne savent pas quelles sont les marques qui sont atteintes au Brésil, de qui parle-t-on. Donc, il y a aussi un problème de communication de gens qui enregistrent un nom de domaine pour pouvoir, après, le laisser de côté, hein. Et si nous allons au CCTLD, les choses ne... Nous avons des plaintes à point, sur .br, par exemple, mais il y a surtout des plaintes des sites brésiliens qui sont engagés hein, par des personnes, de sites qui sont à l'extérieur du Brésil. Et nous essayons d'analyser la quantité de domaines sur .br hein, liés à des campagnes ou des marques. Mais nous savons que ce sont 53 hein, qui ont été créés et après et annulés dans le même jour parce que notre processus est très vite pour faire ceci. Hein. Nous parlons d'une question très intéressante en Italie, en Russie, en France. Nous avons vu ceci. Il y a beaucoup de domaines. Je dirais qu'il n'y a pas de marque dans ces domaines, mais il y a un service d'hébergement gratuit. Hein. Ce service est plus attirant que le registre de domaine. C'est-à-dire ce n'est pas un registre de domaine, mais on a abusé l'hébergement gratuit dans ces CCTLD pour créer des pages et des noms similaires hein, et qui ont le même aspect que le nom de marque. Et il y a aussi une augmentation d'abus d'attaque d'hameçonnage parce que l'utilisateur final ne sait pas où les choses commencent et où nous commençons à avoir une sorte de liste. Tout ce qui commence par .com, .br, c'est une banque. Donc, ils ne comprennent pas que s'il y a un point, ce n'est pas la même chose qu'une barre. Donc, la question est de comprendre où se trouve le nom de domaine. Le micrimi est un mot portugais qui veut dire migrer, hein? Migrez-moi, mais il s'abuse de la compréhension de l'utilisateur final. Et parle toujours de l'abus d'infrastructure de DNS en elle-même. Je dis que nous ne recevons pas de rapport d'empoisonnement de cachets hein, et de DNS. Mais ce que nous voyons, ça existe. Nous voyons en Brésil qu'il y a des attaquants qui sont très concentrés à faire du malware. Et ce n'est pas un empoisonnement de cachet dans mon opinion, parce qu'on n'empoisonne rien, mais qu'on change un fichier et on évite que l'utilisateur arrive à l'infrastructure Internet. Donc, une autre chose que nous voyons, c'est un serveur DNS recursif, c'est-à-dire qu'il reçoit des réponses incorrectes qui engagent le serveur. Hein, et nous voyons que les réponses autoritatives, hein, on met là un fichier et il contrôle très bien quand on a contrôlé un fichier ou non. Ça arrive le week-end, le soir, quand il n'y a pas d'opérateur responsable. Hein, et c'est difficile de rentrer parce que quand on fait l'investigation, la zone n'existe plus, donc c'est très compliqué. On emploie ceci donc pour le délit hein, et un commentaire final sur l'abus de DNS pour le hameçonnage ou pour les crimes en général, hein, c'est que on voit l'abus des serveurs de DNS recursifs pour des attaques spécifiques. C'est-à-dire que nous ne créons pas de domaine en eux-mêmes, mais qu'on le fait pour des machines, pour du matériel spécifique. Hein, c'est ce que je peux vous dire sur les tendances. Merci.
Thank you. Merci, Christy.
Oh non, pardon.
Nous retournerons aux questions un peu plus tard. On va maintenant passer la parole à Monsieur João Damas. Il appartient à l'ISC. Nous lui passons donc la parole. Je vais consacrer quelques minutes à parler sur la réputation du DNS et voir de quoi il s'agit. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Vous êtes familiarisé avec le concept de la réputation DNS vis-à-vis des services e-mail, que vous soyez souscrit ou pas. Ce sont des bases de données où l'on doit accepter ou non les e-mails qui arrivent dans notre serveur Internet par la voie du DNS. Depuis quelque temps, on a eu ces expériences et ceci s'applique au DNS récursif, notamment avec les ISP, ce qui est tout neuf avec les DNS de réputation. C'est qu'il y a un cadre pour le changement de l'information de réputation dans les serveurs. Au fond ou en bas, vous voyez un lien un peu difficile à lire, mais il y a aussi un blog où l'on explique davantage quelle est la cible et comment on va s'en sortir. Qu'est-ce que c'est RPZ, les zones de politique de réponse? C'est l'information des politiques de DNS au sein du DNS lui-même. C'est un mécanisme ouvert permettant les producteurs de réputation de notre domaine ainsi qu'aux consommateurs de coopérer vis-à-vis des applications des politiques dans les DNS recursifs auxquels on peut accéder. Ceci se passe en temps réel. Ceci porte atteinte ou modifie le string ou la chaîne de caractères des lookups de DNS recursifs en temps réel. Le temps récursif des DNS est une politique assez importante, un outil plutôt assez important. Des exemples d'utilisation, eh bien, pour bloquer ou rediriger des sites malveillants, pour bloquer la capacité que les bots trouvent la commande et le contrôle, on peut mettre les clients infectés en quarantaine, pour leur signaler la situation où ils se trouvent et leur expliquer comment améliorer la situation tout en évitant la propagation. Et, bien entendu, le DNS est suffisamment flexible pour que l'IP puisse mener l'information sur IPv6. Voici un mécanisme très simple où l'idée n'est pas toute neuve. Elle est semblable avec ce que l'on fait à ce jour avec SMTP, mais ceci, on peut l'appliquer au nom de DNS et au serveur de nom récursif. En temps réel, on en reparlera plus tard. Le panorama général, et ben voilà, c'est tout. Il y a des questions que nous puissions répondre. Merci beaucoup. Merci. Nous allons ouvrir la session de questions-réponses. Je vais demander à Margie de nous dire s'il y a des questions ou de commentaires à distance. S'il n'y en a pas, eh bien, la session de questions-réponses est ouverte ici, dans notre auditoire. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Veuillez vous identifier pour la transcription. J'appartiens à l'ICANN. Je m'appelle Scott Pinson. Je crois que le DNS est génial, mais je suis curieux et j'aimerais voir comment le système gère les faux positifs à partir de la perspective de DNS. Comme par exemple l'email massif illégitime, quelque chose que l'on puisse identifier comme un bloc. Identifier ou bloquer. Les données sont très importantes, ainsi que lorsque l'on les applique au courrier électronique. Pour les faux positifs, si un faux positif passe nous voyons un blocage et ce blocage va se passer au niveau de l'ISP, de sorte que s'il s'agit d'un faux positif, le ISP a le pouvoir, avec ses outils de zone, pour altérer ce comportement sans que ceci soit changé dans la source. Il va y avoir des erreurs, bien sûr, mais il faut penser au coût-bénéfice, combien de problèmes on peut résoudre, voir quels sont les problèmes potentiels que l'on peut créer aussi. Mais ceci donne du contrôle à l'ISP et normalement l'organisation est la plus... ISP, c'est l'organisation la plus proche du client, bien sûr. Je crois que c'est assez efficace pour... au cas où l'action soit contrôlée, ou l'action soit contrôlée. Et la dernière partie a été inaudible. Merci beaucoup. Est-il possible d'estimer le niveau de monitoring des ISP, par exemple? Ce ne serait pas un travail à temps complet, je suppose, aussi. Personne ne pense qu'on va consacrer beaucoup de temps à ça. Hein? Ce serait un item supplémentaire où les ISP vont avoir une participation brève. Ceci est bon ou pas si bon que ça vis-à-vis de la source d'information. Voilà la question la plus cruciale. Hein? Merci. Bonjour. Je m'appelle Rod Rasmussen d'Internet Identity. Je voudrais faire un commentaire sur le RPZ. Nous travaillons sur la réputation RPZ pour ce genre de questions, pour les blocages. Et concernant la question que l'on vient de poser, nous voulons savoir s'il existe une possibilité d'enregistrer les sources des listes de données pour qu'au cas où il y avait un positif, on peut le dépister. Il y a un mécanisme, si l'on est un utilisateur final, pour savoir qui c'est qui nous bloque dans cette liste, ce serait bien ça. Et une question ou un commentaire supplémentaire sur l'information que Christine a mentionnée tout à l'heure vis-à-vis du hacking de serveurs de nom récursif chez les utilisateurs de PC. Nous avons eu une session importante de DNSSEC hier, et corrigez-moi, mais je crois que le DNSSEC n'aiderait dans aucun de ces cas, parce que ou bien nous contrôlons les fichiers dans l'ordinateur et même dans le serveur récursif, si on ne contrôle pas ce qu'il y a, ça ne sert à rien. Donc, DSNSEC ne va pas couvrir ces faux positifs. Je ne sais pas si c'est un commentaire ou une confirmation. Je ne l'ai pas encore confirmé. Voici l'un des plus grands problèmes, l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face. Bien des fois, on perd le contrôle, et si l'on a un serveur de réputation, ce n'est pas important parce que l'utilisateur est engagé. Le DNSSEC... Et l'intrus pourrait signer avec le DNSSEC. Et ce serait une manière de démontrer qu'il a signé, parce que l'on n'arrive jamais au centre de Mastercard ou qui que ce soit. Alors, le DNSSEC ne couvre pas cela. Et ce que nous voyons sur Brésil, le plus grand problème, c'est le logement de l'utilisateur final. Alors, on a eu cette expérience deux fois avec des fournisseurs et on a eu de grands impacts. On doit le faire de manière quotidienne. Ces fichiers bloquent les AVS et... On doit regarder le Google DNS et on ne peut pas prendre tous les sujets et toutes les questions incluses là-dedans. Il y a du malware qui remplace le serveur récursif ayant une activité criminelle pour voir s'il y a une autre perspective. On n'a pas vu cela, mais on a vu qu'il y a des changements dans les directions des grands serveurs d'hébergement où l'on peut passer du phishing et host d'une manière à une autre et on utilise le host avec ce qui est au milieu.
Mais je ne peux pas faire de commentaires à ces propos. Hein. Ce n'est pas trop difficile d'essayer d'inclure une grande quantité de résolveurs dans une partie du logiciel. C'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Hein. Les bibliothèques qui permettent aux résolveurs... c'est très simple, je n'ai pas vu ceci, mais le système est comme ça. Et je voulais ajouter quelque chose. La DNSSEC fait très bien le travail, mais ce n'est pas la solution pour tout, hein, ni la solution de la fin du monde. C'est une protection de l'information en cours de la source au consommateur, et ceci, ils le font bien. Mais si l'information injectée dans le système n'est pas valable, si le consommateur n'agit pas comme on attend, hein, ou son comportement se voit altéré, bon, ceci ne pourra pas être protégé par la DNSSEC. Et ce problème ne trouvera pas de solution. Et certaines personnes pourraient supposer hein, que ça arrive, mais ce n'est pas le cas. Hein? Et moi, je suis... Ma question, c'est pour M. Reed. Je suis Tony Harris, en espagnol. Je suis le directeur exécutif de la Chambre argentine d'Internet. Nous travaillons avec Internet Exchange en Argentine en interconnexion et nous sommes aussi dans un processus de mettre en œuvre un CSIRT, certes pour le secteur privé. Hein. Ce que nous écoutons de la part de sociétés qui fournissent la technologie par rapport au cybercrime, c'est que le problème fondamental... C'est vraiment l'ignorance de l'utilisateur en général sur tout ce qui peut lui arriver à cause d'être branché en ligne, par exemple. On parlait de centaines de milliers d'ordinateurs infectés par les gens qui font les cybercrimes. Personne ne le sait, hein, et on dirait... que d'après ce qu'on nous dit, hein, qu'il faudrait une campagne très intensive de conscientisation et de formation de l'utilisateur à tout niveau. Hein. Donc ma question, c'est tout simplement si en Colombie, vous avez analysé ceci et qu'est-ce que vous en pensez hein? Oui, comme je vous l'expliquais déjà dans ma présentation, ceci se voit à niveau mondial. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui échappe à ceci. Hein. Le problème, c'est justement que l'utilisateur hein, a un ordinateur et il est branché. On disait que ça suffit. Hein. Non, il est le plus simple, le système opérationnel, ça, les choses vont améliorer. Hein. Mais bon, il y a quelque chose de culturel, de social pour la lutte contre ceci. En tant que police nationale, nous ne pouvons pas le faire, mais disons que les entreprises qui sont touchées, par exemple le secteur financier, font de forts investissements publicitaires pour faire connaître ces tendances. Hein. Ne donnez pas votre information, personne ne va... pas vous donner, vous demander vos données par Internet et par mail, etc. Nous ne pouvons pas le faire pour ne pas créer de la panique économique. Bon, l'idée est n'employez pas des portails financiers virtuels. Nous ne pouvons pas dire ceci. Hein. Nous essayons de montrer des statistiques pour dire que c'est une tendance qu'on reconnaît en Colombie et ailleurs dans le monde, qu'on peut être victime. Donc, le gouvernement national, depuis cette année, travaille fortement. Ceci, il y a un grand investissement par rapport à la publicité de ce type de tendance. Nous le faisons et nous espérons qu'avec la consolidation de notre CERT, puisse donc matérialiser cette information et la massifier. Mais oui, c'est tout un travail que nous faisons. Hein? Merci. Ma question, je suis Jordi Aguilar, Je suis le fondateur, le cessier de la Caixa, c'est la banque d'épargne principale de l'Espagne, et j'appartiens au comité de direction de l'Anti-Phishing Boarding Group. En Europe, nous avons compris le besoin de créer des réseaux d'échange de services de renseignement entre le secteur bancaire pour faire face aux défis de plus en plus compliqués que nous avons. C'est pas seulement du malware et de l'hameçonnage, mais les hackers attaquent des infrastructures critiques de plus en plus qui peuvent être très importantes pour le pays de l'Union européenne. Je voulais donc savoir si en Amérique latine, il y a des initiatives similaires de création de réseaux de renseignement pour qu'une fois par semaine, une fois par mois ou dans une période quelconque, puissent échanger et de l'information sur les attaques reçues par le secteur privé ou tout ce que la police ou l'enforcement ou les personnes consacrées donc à la défense nationale puissent connaître. Oui, effectivement, nous travaillons à ceci maintenant. Nous travaillons à niveau d'ambassade pour passer des conventions d'assistance légale par rapport aux différents bureaux gouvernementaux d'autres pays pour faire ce rapprochement. Nous sommes totalement à disposition et nous commencerons à avoir en vigueur le réseau .247 pour que cet échange d'informations puisse se faire par l'intermédiaire du bureau Interpol. De notre part, il y a une collaboration totale par rapport à la saisie de cette évidence si volatile, parce qu'avec une entreprise de fourniture de services Internet, on peut perdre ceci très vite. Mais nous avons une disposition totale et nous sommes prêts à signer ces accords, ces conventions par le biais du groupe latino-américain de travail et des différentes ambassades. Merci. Je sais que le Brésil a un groupe très fort également de protection de police, qu'ils ont des ramifications avec le Mercosur et ainsi qu'avec les États-Unis et l'Europe. Et je crois que maintenant, avec toute l'Amérique latine, maintenant qu'il y a ce groupe qui fait des échanges plus solides sur la sécurité, nous avons eu une session au Brésil il y a quelques temps et c'était justement la question la plus importante qu'on a traitée, la coopération internationale. Merci. Est-ce que je peux profiter de poser une question à Margie, s'il y a quelqu'un, bon, si vous me permettez, donc, je vais essayer. Je veux poser une question sur votre loi, parce que nous travaillons tous. Nous avons une loi au Brésil mais il y a un aspect très important. Et nous voulons savoir si vous avez quelque chose sur votre loi sur la réserve d'informations pour les ISP, comment les récupérer, combien de temps, que pouvez-vous me dire à ce propos, Comme nous voyons maintenant, il y a une loi de protection de l'information et de données et il y a une autre loi qui vient d'être passée, qui est la loi de habeas data. C'est la loi qui définit quelles informations sont de caractère privé et quelles sont de caractère public et tout ce qui est lié aux entreprises qui hébergent cette information, comment on doit la suministrer. Donc, nous sommes des investigateurs de crimes informatiques et pour pouvoir avoir accès à l'information de CSP, nous devons avoir l'approbation d'un juge pour demander de cette information. Et ceci fait partie de cette loi d'habeas data qui protège l'information. Donc, l'information des titulaires n'est pas publique. Il faut une autorisation judiciaire sur le procureur. Le ministère de la STIX travaille pour la réforme de la loi liée à l'Internet. Nous avons une loi de télécommunication, mais cette loi de télécommunication vise les services téléphoniques surtout, et la partie Internet est un peu laissée de côté. Hein, donc, mais nous avons vu que l'avancement des communications maintenant va dans la voie d'Internet. On essaye de faire une certaine régulation. Hein. Nous avons donc l'information disponible, mais ce que nous ne pouvons pas encore, c'est définir pour combien de temps et comment ceci va être subministré. Nous recevons donc cette information à partir de certains contrôles, tout ce qui est la privacité des personnes, parce qu'il y a une loi sur la privacité, mais tout ce qui concerne les délais, bon, il n'y a pas encore de loi claire pour définir pour combien de temps l'information doit être stockée et comment la donner. Mais bon, je peux vous dire que nous avons accès à cette information. Merci. Et je crois que nous allons donc reprendre cette partie de la réunion. Et je voudrais remercier les présentations, hein, des applaudissements. Merci. Jacqueline, Maurice sont les modérateurs suivants, hein, les animateurs de la deuxième partie de cette session. Je vous remercie de votre attention. Nous allons continuer. Jacqueline. Je suis Jacqueline Morris et je vais animer cette session. Ici, nous allons traiter le guide pour les registrants pour la protection de domaine. Avec nous, il y a Richard Wilhelm de Network Solutions, Rick Wilhelm, qui va donc nous montrer ce guide et quelles sont les et nous aurons après les réactions d'Evan Leibovitch qui représente le groupe ALAC et ainsi que Matt Serling qui appartient à Mark Monitor. Richard, tu as la parole. Le SAC, c'est le comité de sécurité d'ICANN. Pour le monde entier, hein, qui donne des conseils à la Commission sur les questions de sécurité et sur les projets sur lesquels il faut penser. Donc, c'est ça notre travail, de donner du conseil aux registrants qui ont besoin de protéger leurs comptes registraires. Hein, donc, et il y a le SAC 044, par exemple, qui est dirigé au registraire et qui est apparu après certains accords importants de haut profil quand les registrants ont perdu le contrôle des domaines à cause des différents faits non désirés. Hein. Nous avons donc pensé que ceci devait être toute une question par rapport aux registrants eux-mêmes. Hein, et ce document donc va consacrer un temps à trois scénarios. Nous allons parler après sur ce que le registrant devrait faire quand les titulaires des comptes sont sans protection et après offrir certains lignements à partir de questions que vous pouvez poser pour vous poser pour choisir un registraire. Il y a beaucoup de solutions sur le marché, il y a différents secteurs du marché qu'on peut aborder. C'est un document qui est paru le dernier mois. Vous avez là l'URL à disposition sur le site web ICANN. Vous pouvez le consulter. Hein? Et ici, donc, mon rôle est d'essayer d'inclure ceci dans la transcription. Hein? Il y a 30 pages. C'est un document de 30 pages. Vous pouvez le lire chez vous. Hein? Et nous allons parler du panorama. Dans ce panorama, quelles sont les menaces plus graves et plus évidentes? C'est quand on perd le contrôle d'un compte, hein, quand on perd la clé, hein, et parfois quelqu'un arrive à casser cette clé et rentrer, et on a perdu tout le compte et tout ce que l'identification, hein. Si ceci arrive, on est chanceux, il faut changer la clé et essayer de s'en sortir, parce que c'est une bonne forme de le faire, parce que sinon vous... Mais quand on change l'IDNS ou l'information de contact, parce que changer l'IDNS sur Internet, bon, il faut le faire parce que tout peut continuer à fonctionner. Mais un jour quelconque, on se réveille, on essaye de changer le nom et on voit qu'il y a quelqu'un qui a pris la place, hein, et qu'on a perdu totalement le contrôle du nom. Hein, donc, c'est un monde de problèmes. Parfois, on peut perdre les mails ou même, bon, ça dépendra si on est, par exemple, une société de commerce électronique. Bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses pour endommager la réputation. Hein. Ceci change, ceci évolue constamment. Et même au fur et à mesure d'écrire le document, les choses changent. Hein. Donc, que peut-on faire en tant que registrant? Le plus évident, c'est d'essayer d'avoir des clés très solides qu'elles ne puissent pas être devinées. Hein. Et dans le document, nous disons également qu'il faut se centrer sur l'emploi des communications qu'on a de registraire comme une forme d'essayer vérifier qu'on continue en contrôle du nom, hein, et qu'on t'envoie de temps en temps un nouveau mail pour dire, bon, ce mail est de mon registraire, c'est du spam, je veux me désouscrire de cette liste et, bon, j'ai besoin d'une réaction. Hein, essayons de garder certaines de ces souscriptions pour identifier quel est le courrier important du registraire quand on continue un contrôle du nom. Hein, et garder la preuve de la propriété quand on a, par exemple, des documents, hein, de travaux importants. Hein, et parfois, on sait que le titre, c'est pour votre voiture, par exemple. Mais une chose qu'on a identifiée pour garder les preuves de propriété dans le formulaire du registraire, bon, c'est d'avoir tout ce qui est important sur... et en placer de forme sûre, là où on puisse avoir accès. Parce que si on perd le contrôle du nom et quelqu'un reçoit un mail et il disparaît, bon, on devra vraiment se hâter pour le récupérer. Ce n'est pas le moment de lire cette énorme quantité de papier pour chercher où, hein. Que faire pour récupérer le nom? Parce que parfois, on n'est pas tellement organisé avec les papiers. Donc, il faut essayer de rester vraiment organisé. Hein? Ainsi qu'on le fait pour les documents de la voiture. Bon. Mais également mettre en œuvre ce changement, ce contrôle de changement. Les compagnies plus importantes ont des standards qui définissent des mécanismes que si quelqu'un quitte la société ou quand il y a des changements en cours de contrôle ou des processus, hein, qu'on invite les registrants des deux côtés à adopter certains de ces process. Et il est difficile parfois de changer les systèmes, mais ce n'est pas Il n'est pas nécessaire que tous les systèmes soient possibles. Il faut faire certains changements de contrôle. Hein. Par exemple, si on est très bon à être sécurisé, quand une personne part d'une entreprise, donc il faut voir si cette personne a un contrôle sur des comptes de domaine ou de registrant. Et comment conserver ceci dans les mains de la société et non dans les mains des personnes individuelles. Moi, j'ai participé d'une série de différents essayant de résoudre si les noms de registres doivent être dans les mains individuelles, dans les mains individuelles des personnes ou de la compagnie. Et si la personne amène avec elle comme un actif personnel le nom de la compagnie, parce que ceci peut signifier un énorme stress pour la société et c'est un litige infinissable. Hein? Et nous parlons également d'encourager les utilisateurs à la proactivité, hein, en faisant un contrôle s'il y a des choses qui arrivent, et de contrôler les WIS et les DNS. Hein. Un programmeur peut le faire tout simplement, mais il y a des services libres et gratuits dans le réseau pour faire ce suivi, hein, ou d'autres où l'on paye un tout petit prix. Hein. Donc, nous vous invitons à voir quel est ce contenu, comment le serveur est configuré, quand c'est la dernière fois qu'on a changé les données de domaine. Donc, si sur la banque en ligne, hein, avec un compte, il faut voir quelle est la dernière fois que vous êtes entré sur ce compte, c'est cette date. Ceci pourrait vous donner une idée de l'adresse IP, d'où ça provient. C'est un bon rappel pour comprendre quand et comment s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour se loguer sur un site non désiré, hein, ou à 8h30 du matin, que ça peut être dangereux. Hein. Donc, il y a des mesures de protection qui, on dit, bon, le rouge, c'est non, le vert, c'est oui. Hein. Bon, écoutez, ce sont des mesures on pose des questions au registraire, parce qu'il y a une grande diversité de questions. Et bon, on peut poser des questions sur les mesures de sécurité, et une recherche sur la réputation, parler à d'autres clients, et vu que la relation avec le registraire est très importante pour ces questions et ce nom de domaine, bon, il faut le considérer. Hein. Ce sont des actifs très importants pour une société et pour la vie personnelle également. Hein. Ça, c'est la dernière partie de ma présentation. Donc, je ne sais pas comment on va continuer.
Merci beaucoup de votre participation. Evan, je ne sais pas si tu veux parler à propos de l'utilisation de la perspective. De la perspective de l'utilisateur, je n'ai pas de diapo avec moi. Vous devrez m'écouter. Hein. Je suis désolée. Je viens d'Atlodge, ce que veut dire que j'ai les perspectives d'Internet et des utilisateurs. Et aussi dans mon travail de tous les jours, je suis concernée avec des petites entreprises, des grandes universités à Toronto. Je vais donc vous donner certaines perspectives pour les amis, la famille et pour moi-même. Il y a 17 000 domaines. Je suis un propriétaire de domaines, mais pas dans le monde en général. Aux yeux de ma famille, mais pas du monde en général. En premier lieu, je tiens à féliciter Richard et le S-SAC du document. Je l'ai lu dans un anglais très simple. J'espère que tous les registraires puissent le mettre sur leur site web comme un document Internet 101. Tout le monde devrait le lire. Il s'agit d'un document et d'éducation aux consommateurs vraiment très performant. J'adore le langage utilisé, c'est clair, c'est compréhensible. Et je dis aux 200 registraires, mettez ça dans un site web, vos registraires vont être plus éduqués et ceci va nous aider tous. Je ne vais pas répéter ce qui est évident. Mais je vais ajouter quelques commentaires à ce que Richard a dit. L'un d'eux, c'est d'encourager les registrants à ce qu'ils parle spécifiquement du type de registre qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire comment renouveler certaines choses, comment s'assurer d'avoir des informations de contact convenables et qu'ils puissent notifier s'il y a quelque sorte de modification, la géolocation dont vous avez parlé, etc. Mais ceci diffère de registreur à registreur. La seule chose que je veux faire, c'est d'établir une bonne pratique, à savoir être sûr que les gens sont familiarisés avec le logiciel utilisé. Il faut tenir compte aussi que beaucoup de registrants, lorsqu'on vient de commencer, notamment les petites entreprises, veut dire que le domaine a plusieurs contacts, non seulement un, mais il y a un propriétaire qui dépend du TLD, des contacts d'administration, des contacts administratifs, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas compte de tout cela. Ils ne profitent pas de tout cela. Il y a un agenda très concret que l'on a déjà mentionné. Je crois qu'en Colombie, il y a un restaurant qui a demandé à un designer de faire dans un seul paquet le site web. Était très bien. Et quand ils sont allés au juice, ils voyaient que le nom du propriétaire était déjà enregistré au nom du concepteur web et pas du propriétaire du restaurant. Alors, la personne qui a fait la présentation a présenté une solution. Moi, j'étais un peu préoccupée pour cet inconvénient. Parce que si vous avez un contact avec vous devez avoir un contact pour ce TLD, mais ce n'est pas la même chose que de voir quel est le propriétaire du domaine. S'il existait un conflit entre le propriétaire du domaine et le fournisseur du service, ou celui qui héberge, ou n'importe qui, il est important que le propriétaire du domaine doit savoir qu'il a cette propriété et qu'il est listé comme un propriétaire de domaine. Une autre question qui arrive, c'est le logement de sites web qui ça se passe depuis longtemps. Il y a beaucoup d'hébergements gratuits, mais des fois, ils conservent la propriété de ce site. Et alors là, si une entreprise veut aller dans un autre service, elle ne doit pas nécessairement prendre le domaine avec eux. Une chose, c'est d'avoir le site web ailleurs. Mais si nous voulons mener notre service avec nous, alors là, ceci devient un problème. Nous encourageons donc les gens de s'assurer à connaître la nature de ce paquet qu'ils reçoivent, s'ils ont toujours la titularité de domaine indépendamment de l'identité de l'hébergeur. Voici des problèmes que je voulais mentionner vis-à-vis du domaine. Et le reste, c'est simplement de vous dire, soyez de bons consommateurs comme registrants. Faites les enquêtes que vous devez faire, comme lorsque vous achetez n'importe quel autre bien, par exemple une voiture, un ISP, un fournisseur d'un ordinateur ou quoi que ce soit. Soyez des consommateurs intelligents, faites vos recherches et utilisez l'information se trouve au SSAC44, qui est très important pour les gens qui doivent prendre des décisions. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Je veux remercier Margie du fait d'avoir organisé ce forum. C'est le sixième. Nous avons parlé de questions de politique et je tiens à remercier tout spécialement le fait que ces sessions sont des sessions opérationnelles. On nous montre quel est le monde réel. Je n'ai pas préparé non plus des diapos, mais je voudrais profiter de quelques minutes pour remercier du rapport de SSAC. Marc n'est pas crédité, mais nous travaillons avec des grandes corporations et nous avons des perspectives singulières parce que nos clients offrent justement ce qui est attaqué. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question corporative, mais que ceci porte atteinte aux personnes avec des noms enregistrés. Je ne crois pas que ceci soit un cas réel, mais il y a eu un cas où le propriétaire d'un domaine de portefeuille a été atteint par un programme malveillant. C'est ce dont vous parliez. Un troisième a pu accéder au compte du registrant. Il a actualisé le DNS. Il a mis à jour les emails. Et le SSAC, ce que nous voyons normalement dans la vie réelle, ce rapport SSAC montre le paysage qui a changé le long du temps. Je vois que les mesures, les contre-mesures à ce type de menaces sont très bonnes également. Le rapport SSAC parle de deux facteurs de questions comme les registres loqués, des menaces qui n'existent pas il y a quelques années. Je crois bien que comme communauté, les registreurs, les registres, nous devons être unis pour être sûrs d'aborder les menaces existantes, que nous avons changé les processus et les technologies pour avoir plus de sauvegarde, plus de protection au niveau mondial. Je voudrais aussi mentionner le fait que ceci ne concerne pas les registraires, les registrants. On est tous sur le même bateau et nous devons tous être sûrs que nous avons de bonnes pratiques, que nous formons nos clients, notre staff sur la sécurité et du fait que les noms de domaine sont une menace, hein, sont un cible donc, ou bien une personne avec un blog, une grande corporation ou on a un business en ligne. Il faut s'assurer de faire attention à la sécurité. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je veux laisser le temps pour les questions-réponses et ouvrir l'espace questions-réponses pour tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup. Vous avez des questions à distance? Bonjour, je m'appelle Bruce Tonkin et je travaille, je viens de Melbourne. Je parle du contexte administratif versus des contacts administratifs. Il y a peu d'entente des rôles vis-à-vis des domaines et des entrées juices pour définir ces rôles. Il y a quelque temps, il y avait... Et je parle notamment de about.com. Il y avait un contexte de domaine et deux contacts principaux publics. Mais les contacts administratifs nous assurent que nous savons bien comment ça se passe avec l'organisation. Il y a un document qui explique ceci séparément. Il y a donc un département du gouvernement ou l'université, du MIT... Nous avons MIT.University, puis nous avons eu les contacts. On ne savait pas bien quel était le propriétaire de ce site. Et ce qui était important, c'est de savoir à qui on s'adressait si éventuellement on avait des problèmes avec un nom de domaine en particulier. Ceci, tout au début du monde académique. Maintenant, on ne sait pas bien quel est le propriétaire. Alors, on parle d'un développeur web qui construit un site dans un domaine et qui est l'entité légale de ce nom. En général, ceci n'est pas bien fait. Il y a des CCTLD qui le font très bien. Il faut identifier non seulement l'entreprise qui est la propriétaire du nom de domaine, mais il faut identifier aussi de manière exacte quel est le propriétaire. Et à partir de là... on peut mener les disputes avec plus de facilité parce qu'on peut fournir les documents légaux nécessaires. Depuis la perspective de l'utilisateur, il faut signaler, il faut dire ce qu'il faut documenter de manière appropriée, quel est le propriétaire légal du nom de domaine. Il peut s'agir d'une personne. Mais en général, il faut avoir le nom formel de l'entreprise, incorporé ou pas, parce que ceci va faciliter les différends. Puis les contacts administratifs, il peut s'agir d'une personne appartenant à l'entreprise, de celui qui fournit ce service, mais il faut savoir qui a la responsabilité légale du nom et la plupart des fois, ceci n'est pas bien fait. Je dirais que le 50% des entrées sur .com n'ont pas ce droit. C'est-à-dire que le véritable propriétaire n'est pas celui qui a le document. Ceci nous mène au problème de sécurité que nous avons trouvé parce qu'il faut identifier quel est le responsable de l'utilisation de ce nom. Parce que oui, c'est une méthodologie de contact. Ce n'est pas une documentation légale pour savoir quel est le propriétaire du nom. Ce que nous faisons, c'est justement de créer un système d'identification et je crois que nous devons identifier clairement les deux problèmes. Et quelle est l'identité et quel est le responsable des documents? Et essayer de spécifier ce que c'est le juice pour différents objectifs. Maintenant, tout appartient au même site, à savoir le juice, et on ne sait pas qui fait quoi. Et l'autorité d'application de la loi considère qu'il est très difficile d'identifier ce qu'il y a dans dedans le juice. Bruce, tu vas nous aider avec la documentation pour pouvoir arriver à faire tout cela parce que tu as raison, ce genre d'information doit être publié. Et tel qu'on l'a déjà dit, le changement est en marche vis-à-vis de la responsabilité de maintenir, de conserver la sécurité. L'une des initiatives pour que At Large puisse continuer, c'est essayer de définir les questions vis-à-vis des questions et des droits des registrants qui ont droit à un niveau X de sécurité. Il faut maintenir une chaîne et la construire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème pour ce faire. Bien, je vais profiter de ce moment pour voir ce qui arrive dans la salle de bavardage. Bob Connelly parle et donne l'exemple de la situation similaire où l'on peut créer un site web, c'est-à-dire où un étudiant peut créer le site web.
Le nom de domaine peut arriver à expiration, à échéance, et on ne peut pas suivre l'information clarifiée. Et on est d'accord, il est d'accord avec tout le débat qui a lieu ici, hein, Bob? Je suis Rob Rasmussen. Je voulais continuer avec ce que Bruce disait. Hein. Une autre considération importante, ce sont les services de privacité. Hein. Il faut établir la couche pour savoir qui est le propriétaire réel et aider également à la dévolution de ces sites quand il a été attaqué, hein, par exemple. Je ne sais pas si ceci est couvert par le document, je ne sais pas, il faudra étudier meilleur, étudier plus à fond cette question, hein. Et je voulais vous féliciter du travail fait par le document. Je suis contente de voir que vous l'avez publié. C'est très intéressant pour le registraire. Hein. Et j'ai déjà dit dans le document hein, qu'il y a des conseils pour les plus diverses parties hein, avec une méthodologie correct sur comment on peut attaquer le nom de domaine et connaître cette information, donc sur qui peut offrir ce genre de service sur le marché pour savoir comment prendre des décisions hein, pour préserver le secret. Et dans ce à deuxième lieu, il y a la question criminelle. Hein. Je crois que vous avez fait un très bon travail dans les dernières années pour, je crois que vos standards disent que vous ne protégez plus les transactions de sécurité pour des questions plus avancées par rapport à au comportement des utilisateurs, les multiples choses qu'il faut observer, des banques par exemple. Il y a des personnes sans scrupules qui volent les données et qui peuvent contrôler ces genres de choses. Donc, et j'aime voir que tout ceci soit disponible sur les documents pour l'information et pour savoir qui doit offrir les niveaux d'authenticité. Hein. Et bon, des commentaires, parce que c'est un jeu hein, ici, et c'est une menace, ce que nous sommes adaptés. Hein. Et en ce qui concerne l'information, il est intéressant de parler de mon point de vue, hein, et je parle de Mark Monitor. Nous ne publions pas les mesures de sécurité que nous avons installées. Hein. C'est un niche, nous sommes des joueurs avec un niche. Mais je sais qu'il y a des détaillants qui publient de l'information sur deux facteurs qui sont disponibles. Et on peut voir que chaque registraire a des fonctions de sécurité disponibles, mais différentes. Il y a des publications de la presse où on donne information sur toutes ces données. Mais parfois, on ne peut pas trouver ceci tout réuni. C'est ça, que la forme plus simple, tu dis, de poser une question, bon, c'est bon. Poser la question, hein, il y a une série de choses que je voudrais connaître sur la compagnie. Hein, contactez-vous par téléphone et consultez sur les solutions disponibles. On ne met pas ceci sur la page d'accueil de notre site web. Hein, et nous allons vous aider à trouver une solution, à vous donner une orientation si vous voulez. Hein, et tout ce que le registraire peut faire pour vous aider, la flexibilité opérationnelle et pour injecter une réflexion pleine de sens, hein, où on puisse avoir une marque et dire ah, je me lève à 3 heures du matin et je vais mettre à jour mon compte de mail ou passer de Yahoo à Gmail, même si on a toutes les mesures de sécurité, hein, que parfois ceci a été violé, mais l'important c'est de, bon, qu'il n'y ait pas de problème, hein, que ta maison ne brûle pas. Hein. Il y a deux facteurs qu'il faut considérer. Moi, c'est moi qui dis ça. Hein. Je paraphrase Marc, hein, parce que c'est tout un jeu ici de cache-cache. Hein. Il y a la seule sécurité totale pour un ordinateur, c'est de ne pas se brancher directement, jamais. Hein. C'est ça, la seule forme. Autrement, il y aura toujours des questions potentielles, vulnérables. Et ceci, mais ceci correspond à une autre session, hein, une autre table. Il y a aussi la question du serveur de privacité. On n'a pas traité ici ceci parce que ça ne correspond pas à cette session, mais ce que font les registrants pour la protection de leur compte. Mais et il y a un parallèle ici avec les fraudes, les systèmes de sécurité, et il faut voir quelles sont les limitations, hein, et essayer de... Si on doit traiter la question de privacité, bon, on devrait aider à plus de sécurité, justement, hein, la question hypothétique, hein, du registrant. C'est un autre débat, hein, tout différent. La privacité est une discussion tout autre, hein, par rapport à la sécurité. Et encore un commentaire. Je sais qu'on ne va pas traiter la privacité. Hein. Vous avez un ordinateur sûr et celui qui n'est pas branché. Est-ce qui me rappelle qu'il y a une liste aux États-Unis qui existe pour faire des transactions en ligne de haute valeur, et on recommande d'avoir un ordinateur exclusivement à ce propos. Il faut le considérer quand on a vraiment un portefeuille de domaines incluant, par exemple, deux environnements corporatifs, et il faut donc consacrer un seul ordinateur. Hein, et des ordinateurs sont bon marché actuellement. Et je vais le dire à ma femme, hein, voir si on peut allouer certains fonds pour l'année fiscale, la prochaine année fiscale. D'autres commentaires. Moi, j'ai des observations de la salle de bavardage, Bob Connolly. Et un autre exemple de la Californie.com, Delta.com en Californie, hein. Il y avait des membres là qui disaient que le domaine était arrivé à un point X qui avait été capturé par un spéculateur, hein, qui s'est trouvé à Belize, mais le spéculateur n'a jamais répondu les questions de mail. Donc, je crois que ça, c'est utile pour des situations de ce type. Hein. Et un commentaire qui Zach Van, Jap 23 va s'associer aux questions de sécurité. Hein, qui peut le dire? Bon, merci. L'expérience a été excellente. Le rapport est très intéressant. Moi, je l'ai lu. Vanda. Pour finir, je crois que c'est la fin de notre session. Hein? Nous pensons que tout le monde a faim et nous avons parlé d'un aspect très vaste. Il y a beaucoup encore que à faire. Je considère que cette session devrait être toujours habituelle dans les futures réunions d'ICANN. On avance beaucoup, mais il y a encore beaucoup de problèmes à surmonter. Et actuellement, il y a de plus en plus de gens qui rentrent au nuage, au cloud computing. Et il y a beaucoup de défis hein, vraiment à soulever. Et je vous propose de continuer avec ce type de réunions dans les prochaines réunions de forme bien organisée hein, et étendant un peu les réunions au secteur technique sur l'impact de tout ceci sur la société. Nous vous remercions donc de votre présence. Ah, non, Steve veut recommencer. Bon, qu'on ouvre. Bon. Je veux participer à la clôture. Je suis Steve Koch. Je préside SAC. Je vous remercie. Hein, et ça a été un plaisir de vous avoir ici. Merci, Steve. Donc, on va clore et nous vous remercions d'être ici et nos collègues. Tout ce matériel sera à votre disposition sur le site web. Le l'information de contact des orateurs. Également, vous allez la trouver. Vous pourrez leur poser des questions additionnelles. Merci.
I just wanted to add one thing. Everybody, please take this report and disseminate it to everyone you know, because it's really, really important.